journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des combattants zaghars sortis du siège de Baghouz à quelques jours de la chute attendue de Daesh. Rencontre entre deux dunes du désert syrien, reportage exceptionnel de notre envoyé spécial dans un instant. Brexit, mode d'emploi, il n'y en a pas. Nouveau rejet hier soir de l'accord de sortie du Parlement au Parlement britannique. Londres et Bruxelles en plein fog londonien. Abdelaziz Bouteflika est toujours là. Les manifestants aussi dans les rues d'Algérie. On en parle avec votre invité à 8h20.
Nicolas. Nos invités, ma chère Florence. Grand entretien en forme de table ronde. Kader Abderrahim sera ici en studio à Paris. En ligne depuis l'Algérie, l'écrivaine Maïssa B. La sociologue Amel Boubekeur. Vos questions, évidemment, au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Réseaux sociaux, applications France Inter, si vous préférez les moyens de communication modernes.
À la une, également, qui veut racheter ADP à l'État, la privatisation à l'Assemblée aujourd'hui, contestation dans les rangs de l'opposition. Plus de retraite permis pour ceux qui sont arrêtés après avoir bu un verre de trop au volant. Ce sera éthylotest anti-démarrage obligatoire. Du foot et Lyon sur la pelouse du Barça ce soir en Ligue des Champions. Et puis une rocambolesque affaire de corruption aux États-Unis. Une actrice célèbre arrêtée, soupçonnée d'avoir payé pour faire entrer sa fille à l'université.
France Inter.
À quoi ressemble la fin d'une guerre? À quoi ressemblent les derniers combattants défaits du groupe État islamique? Il en est sorti des milliers cette nuit du réduit de Baghouz en Syrie, arrêté par les forces kurdes. Jusqu'à présent, on avait vu seulement leurs épouses dans leur niqab, les seuls autorisés à parler à la presse. Pour la première fois, notre envoyé spécial a pu parler aux hommes des gueules cassées d'une armée en déroute. Reportage signé Aurélien Colli.
La nuit tombe sur le désert syrien. Au détour d'une dune, des forces spéciales américaines qui photographient et relèvent les empreintes d'une dizaine de djihadistes. 200 mètres plus loin, une autre unité. Cette fois, des forces spéciales kurdes qui fouillent une trentaine d'autres combattants. Tous sortent de l'enclave de Baghouz, éclopés, gravement blessés. Je m'appelle Zouer, je suis né en 99, je viens de Fès. J'ai rejoint Daesh il y a 2 ans, explique l'un d'eux avec une tête de gamin. Je suis venu pour le djihad du Maroc, pour défendre l'État islamique. Ajoute-t-il, incapable de se lever, il est blessé à la jambe et à l'estomac. Assis en tailleur, main sur la tête à quelques mètres, une autre tête de gamin et un bras cette fois ensanglanté. Il s'appelle Mohamed, il est syrien, il a 25 ans. J'étais mécanicien depuis 3 ans, c'est mon frère qui était dans l'État islamique. Il est encore à l'intérieur, explique-t-il. L'officier de renseignement kurde qui l'interroge n'y croit pas une seconde. Hier j'ai été blessé et j'ai décidé de partir. C'est très mauvais à l'intérieur, ils ne combattent plus, les gens veulent sortir, promet le jeune homme Agar. L'officier de renseignement confirme, cette nuit il attend 1 millier de combattants et leurs familles qui se seraient rendus. Il restera selon lui 700 personnes à l'intérieur qui sortiront aussi dans les 48 prochaines heures après une nouvelle vague de frappes aériennes ou des tirs de sniper. Baghouz, Aurélien Colli, France Inter.
La victoire finale n'est plus qu'une question de jours selon les forces kurdes.
Et c'est par où la sortie?
Personne n'en a la moindre idée, ni en Europe, ni au Royaume-Uni. Au lendemain d'un nouveau rejet de l'accord sur le Brexit par les députés britanniques, rejet massif hier soir. On est à 16 jours de la date fatidique et le drame continue aujourd'hui au Parlement avec un vote sur une sortie sans accord qui pourrait être un électrochoc salvateur. Antoine Gignot, dit une partie du gouvernement.
Ils sont au bord de la falaise, mais ils refusent de ralentir. Si on écarte le no deal, si on élimine la possibilité de sortir de l'Union européenne sans aucun accord, alors on n'a plus aucun moyen de faire pression sur Bruxelles, explique le secrétaire d'État à la famille. Comme de nombreux membres du gouvernement, Nadim Zahawi pense encore que seule la perspective d'un scénario catastrophe peut inciter les dirigeants européens à faire des concessions de dernière minute. Le jeu en vaut la chandelle, dit-il, et de toute façon, le pays est prêt à toute éventualité. 4,5 milliards d'euros ont été ces derniers mois consacrés à renforcer les dispositifs de contrôle et à préparer les changements. En réalité, le Royaume-Uni souffrirait cruellement d'un Brexit anarchique avec une explosion des frais bancaires et téléphoniques, les médicaments en rupture de stock, les perturbations dans les transports avec des centaines de kilomètres de bouchons autour des ports britanniques. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Invraisemblable feuilleton du Brexit. Theresa May en est restée sans voix hier soir après sa nouvelle défaite. Situation inextricable que seul un nouveau référendum pourra débrouiller, dit Anna Soubry, élue conservatrice frondeuse. Elle a quitté le parti il y a quelques semaines, dépitée par la gestion du Brexit.
Tout est de la faute de la Première ministre. Elle est responsable du malheur qui lui arrive. On l'a prévenue, on lui a donné des conseils, on a tout essayé pour lui faire comprendre la situation. Mais c'est elle qui a créé ce cauchemar. Des élections anticipées ne résoudraient pas le problème. La seule autre alternative, c'est d'organiser un deuxième référendum et il faut qu'on oblige Corbyn et son équipe à faire ce qu'ils ont dit et à soutenir ce deuxième référendum.
Il n'y aura pas de négociation d'ici au 29 mars sur le Brexit, dit le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici à l'instant. Le Royaume-Uni a épuisé sa dernière chance. En Algérie, les slogans ont changé mais pas les foules qui défilent désormais contre la prolongation du quatrième mandat de Bouteflika. Ils étaient des milliers d'étudiants hier dans tout le pays.
Il est 8h06 à vendre deux aéroports parisiens, 7000 hectares de terrain.
Prix de vente 8 milliards d'euros au bas mot, c'est ce que vaut la part de l'État qui veut donc privatiser ADP, c'est la loi Pacte, en deuxième lecture aujourd'hui à l'Assemblée, et que l'État vende tout ou en garde une partie, peu importe. Maxence Lambrecq, l'opposition a pris l'avion de la contestation.
Même la droite s'y met. Elle votera majoritairement contre cette privatisation car ça lui rappelle de mauvais souvenirs, le député Daniel Fasquel.
On a bradé les autoroutes et aujourd'hui tout le monde le regrette. Et c'est beaucoup beaucoup d'argent que l'État a perdu. Si on veut équilibrer nos comptes, on a aussi besoin de garder un certain nombre d'actifs.
ADP est en effet largement bénéficiaire.
Au-delà de cela, Aéroports de Paris détient toutes les réserves foncières de l'Île-de-France, ou presque.
Précision signée Olivier Faure, le patron du PS. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent pour le président du groupe Liberté et Territoire, Philippe Vigier.
Un aéroport, c'est une frontière. Est-ce que demain, dans le monde que l'on connaît, aussi dangereux qu'il peut être, eh bien, on laissera cette frontière sans que ce soit une autorité d'État qui en garantisse le fonctionnement au quotidien? Non, tout ça, c'est du sérieux.
Et en face, la majorité minimise le député Bruno Bonnel.
Je peux dire aujourd'hui qu'avoir une structure hôtelière d'aéroport et un centre commercial ne sert pas à grand-chose à l'État par rapport à des investissements plus intelligents qu'il pourrait faire demain. À condition, bien sûr, que toutes les structures de régulation qui inquiètent nos compatriotes, c'est-à-dire les lignes aériennes, le contrôle aux frontières, ça, ce sont des choses qui vont rester dans les mains de l'État.
Un discours rassurant qui contraste avec l'amertume de certains élus de la majorité. On a le don pour se tirer une balle dans le pied, me confie l'un d'eux, de cette grande loi Pacte. On ne retiendra malheureusement que cette privatisation.
Maxence Lambrecq, interdiction préventive de manifester, fouille, délit de dissimulation du visage. Le Parlement, par un ultime vote du Sénat, a définitivement adopté la loi anti-casseurs hier soir. Un texte que la gauche et une partie de la majorité juge liberticide. Le Conseil constitutionnel va maintenant juger de sa légalité. Qui veut participer aux conférences citoyennes à partir de vendredi? Il n'y a pas foule, apparemment, pour ces réunions de clôture du grand débat. Les organisateurs n'arrivent toujours pas à trouver les 100 Français prévus pour chaque assemblée régionale, choisie par tirage au sort. L'objectif a donc été largement revu à la baisse, Faustine Moheran. Et s'il y en a 50, ce sera déjà bien.
Il faut dire que les dates ont été plutôt mal choisies, vendredi après-midi et samedi. Forcément, ça élimine ceux qui travaillent, comme Henri, tiré au sort à Laval en Mayenne. Et le mot d'excuse fourni par les organisateurs pour son patron ne change pas grand-chose.
Ayant, on va dire, une astreinte jusqu'à vendredi soir, bien malheureusement, je ne peux pas me faire remplacer dans une période si courte. C'est pas considéré comme un cas de force majeure de par ma direction. Je ne peux pas me rendre disponible.
Pourtant, la mission du grand débat a sorti les grands moyens. Elle organise et paye tout d'avance, billets train, hôtel, repas. Mais les garants auraient aimé aller encore plus loin, reconnaît Nadia Belaoui, l'une des garantes.
On aurait pu aussi prendre en charge des crèches, organiser l'accueil des enfants en bas âge pour permettre en particulier la participation des actifs. Ça n'aura pas été fait cette fois, mais ce sont des bonnes pratiques qu'on gagnerait à mettre en place pour d'autres débats de ce type.
Et surtout, il y a une condition que les garants n'ont pas obtenue.
Il aurait été parfaitement légitime qu'on indemnise tout le monde de manière à lever le frein économique à la participation. Mais le calendrier, le budget réuni ne permettait pas forcément de réunir toutes ces conditions.
Résultat, il pourrait y avoir moitié moins de citoyens que prévu dans ces conférences régionales, seulement 50 au lieu de 100, surtout en Corse, la région qui se mobilise le moins depuis le début du grand débat.
Ce fut la genèse du mouvement des Gilets jaunes, le prix de l'essence et du diesel, trop cher quand on utilise sa voiture tous les jours, précédé par les 80 km/h sur les routes secondaires et la peur des radars, la peur de perdre son précieux permis. Tout cela sans doute a joué dans la décision prise hier par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, la généralisation de l'éthylotest anti-démarrage, alternative à la suspension du permis pour ceux qui se font prendre avec un peu trop d'alcool dans le sang. La mesure a été testée dans 7 départements. Elle permet à Louis-Valentin Lopez de continuer à se servir de sa voiture.
Concrètement, vous êtes contrôlé avec plus de 0,8 g d'alcool par litre de sang. Vous n'êtes pas récidiviste et votre taux n'excède pas 1,8 g. Les forces de l'ordre vous proposeront alors de bénéficier de cet éthylotest anti-démarrage. Si vous dites oui, vous recevrez un arrêté du préfet. Ça vous évitera de dire adieu à votre permis de conduire. Il faudra tout de même passer devant le tribunal correctionnel. Là, le juge pourra décider de prolonger la durée de l'éthylotest anti-démarrage installé sur votre véhicule. Il y restera entre 6 mois et 5 ans selon les cas. Le tribunal pourra aussi moduler l'amende, 4 500 € maximum. C'est pour permettre de compenser le coût du dispositif car vous devrez le payer de votre poche. L'objectif, affirme le gouvernement, est de responsabiliser les conducteurs, de leur permettre aussi de conserver leur activité professionnelle tout en garantissant la sécurité des autres usagers de la route.
Péril en haute mer, le navire de commerce italien Grande America a fini par couler hier après-midi à 300 km des côtes du Finistère. Ça faisait 2 jours qu'il était en feu. Son équipage a été évacué, mais pas sa cargaison qui gît par 4000 mètres de fond, ce qui inquiète Delphine Evenou, les autorités et les associations.
Interpellé hier à l'Assemblée nationale, le ministre de l'écologie, François de Rugy, a reconnu que le risque de pollution était réel.
Il ne faut pas le nier, d'abord parce qu'il y a une cargaison de fuel lourd, le carburant de propulsion de ce navire. Par ailleurs, nous sommes en train d'identifier le contenu exact de la cargaison pour savoir la nature des produits.
Mais pour l'association écologiste Robin Desbois, il ne faut pas se faire d'illusions. L'armateur a souvent le même type de cargaison. Jackie Bonnemain, porte-parole de l'organisation.
Les bateaux de Grimaldi Lines sont chargés effectivement de centaines de voitures, d'engins de travaux publics, de remorques pleines de pneus. Il y a sans doute aussi pas mal de pesticides et d'autres matières dangereuses.
Le littoral du Sud-Bretagne, des Pays de la Loire, voire de l'Aquitaine pourrait être souillé par des hydrocarbures d'ici quelques jours, sans compter les dommages sur l'écosystème marin. Une catastrophe écologique due à la pression du fret maritime qui s'est intensifiée ces dernières années, s'agace Jackie Bonnemain.
C'est des trains de marchandises, c'est plus des bateaux qui doivent tenir compte de la météo, de la nature des marchandises à bord, et les commandants sont complètement débordés, ils ne savent même plus ce qu'ils transporte.
L'association Robin des Bois annonce qu'elle va porter plainte devant le tribunal de grande instance de Brest pour pollution et abandon de déchets.
Il était déjà en prison, cette fois il sait pour combien de temps. Le cardinal australien George Pell a été condamné cette nuit à passer 6 ans derrière les barreaux pour avoir violé 2 enfants de cœur à 77 ans. L'homme était conseiller du pape François et trésorier du Vatican. « Je suis conscient », lui a dit le juge, « qu'avec cette peine vous pourriez ne pas vivre assez longtemps pour sortir de prison ». Toujours à l'étranger, la Californie suspend la peine de mort. Le gouverneur du plus grand état des États-Unis va décréter un moratoire qui concernera plus de 700 détenus dans le couloir de la mort. Et puis restons aux États-Unis, tiens, pour une enquête hollywoodienne avec de la corruption, des jeunes gens riches et leurs familles, des universités de prestige, Yale, Stanford, UCLA, ou comment des parents payaient parfois des sommes folles pour que leurs rejetons intègrent ces campus de renom. Une 50aine de personnes inculpées, Grégory Phillips, dont une actrice célèbre, mère désespérée sans doute par les résultats scolaires de ses enfants.
Même les scénaristes de la série Desperate Housewives n'auraient sans doute pas imaginé l'interpellation de l'actrice Felicity Huffman, Lynette, dans la série, soupçonnée d'avoir versé $15 000 à un intermédiaire afin qu'il modifie les résultats de sa fille au test d'entrée de ses universités. Le réseau opérait depuis 2011, à sa tête un certain William Singer, directeur d'une école préparatoire qui, avec une 15aine de complices, contre-rétribution, faisait en sorte que ces jeunes gens issus de milieux très favorisés puissent intégrer Yale, Stanford, UCLA, autant d'universités très chères mais aussi très sélectives. Andrew Lelling est le procureur fédéral du Massachusetts.
Ces parents sont tous aisés et privilégiés. Il y a des PDG de grandes compagnies publiques ou privées, des investisseurs immobiliers, deux actrices connues, un créateur de mode célèbre et le vice-président d'un cabinet de droit international. L'un des clients a payé jusqu'à $6,5 millions pour ce service pour un seul étudiant.
Au total, le réseau a accumulé $25 millions. Les universités concernées ont lancé des enquêtes internes. Quant à l'organisateur de cette fraude, qui désormais coopère avec le FBI, il risque jusqu'à 65 ans de prison. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Du foot et ça se resserre en Ligue des Champions. Qualifié pour les quarts de finale, Manchester City et ses 7 buts marqués face à Schalke, 7-0. Et puis la Juventus Turin grâce à un triplé de Ronaldo hier soir dans les buts de l'Atlético, 3-0. Ce sera loin d'être aussi simple pour Lyon qui attend un miracle à Barcelone ce soir. 8e de finale retour sur la pelouse de Lionel Messi. Évidemment, Guillaume Batin, ça ne sera pas de la tarte.
En cette confrontation face au Barça, jamais l'OL n'est parvenu à s'imposer. Le bilan est de 3 nuls et 4 victoires pour les Catalans avec parfois des scores assez lourds. 3-0 en 2007, 5-2 en 2009. Après son match nul 0-0 au match aller et à domicile, Lyon a théoriquement 32% de chances de se qualifier. L'OL va récupérer son meneur de jeu et capitaine Nabil Fekir suspendu au match aller. Mais Barcelone reste sur 3 victoires en 4 matchs en Liga, le championnat espagnol, poussé par un Lionel Messi digne des années où il était couronné par le Ballon d'Or. Le meilleur buteur européen du moment avec 34 buts, toutes compétitions confondues, est bien évidemment la principale menace pour les hommes de Bruno Genesio. 5000 supporters lyonnais ont fait le déplacement, ils ne feront pas le poids face aux 95 000 socios, mais au regard des nombreuses surprises de cette édition 2019 de la Ligue des Champions, les éliminations du PSG et du Real Madrid notamment, Lyon peut croire en ses chances de créer l'exploit et de sortir le favori de la compétition. À Barcelone, Guillaume Batin, France Inter.
Enfin, c'est facile, mais ça soulage. De retour sur le terrain après sa cuisante élimination à Manchester la semaine dernière, le PSG a mis 4 buts à Dijon en 18e journée de Ligue 1, 4-0 pour l'honneur, mais sans ses supporters ultra qui ont boycotté la rencontre.
Merci Florence Paracuelos.